C'est ainsi que nous sommes debout, aujourd'hui et pour toujours.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité de la très glorieuse Fédération anarchiste. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le tour du monde libertaire. Une émission animée par Monique en régie, Nicolas et Serge au micro. Bon, c'est parti donc pour le tour du monde libertaire, le journal sans Dieu ni maître, ni publicité, ne l'oubliez pas, de la Fédération anarchiste. Et nous sommes le lundi 29 juin 2026, dernier lundi du mois. Et donc c'est le tour du monde libertaire comme il se doit. Alors un tour du monde libertaire un peu particulier aujourd'hui. En effet, pour des raisons techniques, la fameuse canicule qui sévit depuis deux semaines, aujourd'hui elle est un petit peu, voilà, elle est un peu modérée, ça va mieux, il fait un petit peu plus frais. Donc la fameuse canicule qui sévit en est sûrement responsable. Les hommes et les machines souffrent. Les boxes, précieux sésames de nos courriels, ces fameuses boxes, s'échauffent, changent de couleur au point de devenir rouges ou tout bonnement écarlates et même de rendre l'âme. C'est le désagrément que nous avons eu la semaine passée, ou il y a deux semaines peut-être maintenant, et qui a interrompu notre diffusion sur Radio Libertaire en streaming ou en DAB+, avant que nos équipes pleinement mobilisées ne remédient à ce désagrément. Une panne à méditer, car illustre bien nos dépendances aux outils technologiques nécessaires à notre diffusion. N'est-ce pas, Monique ? C'est le même désagrément que nos camarades du comité de rédaction du Monde Libertaire ont eux aussi subi et qui nous a empêchés de recevoir le Monde Libertaire suffisamment à l'avance pour pouvoir vous en faire une revue détaillée. Mais n'ayez crainte, nous sommes renseignés, l'imprimeur a bien reçu et il a imprimé et selon certaines indiscrétions proches de sources tout à fait sérieuses, eh bien, vos exemplaires sont déjà en route vers vos boîtes aux lettres, au bon soin de modernes diligences postales. Donc, dans le courant de la semaine, vous devriez le recevoir, et puis, pour toutes celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, et nous vous recommandons de le faire, eh bien, il sera dans votre librairie parisienne préférée, à savoir la librairie Publico, au 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement, bien sûr. Et vous pouvez aussi le retrouver un peu partout en France, dans d'autres librairies, et par exemple la librairie L'Antidote. Et là, c'est à Bourges que ça se passe. Et il y en a bien d'autres, hein, bien sûr. Je vous disais donc que le programme serait un peu bousculé. Voici donc ce qu'il va en être. Tout d'abord, nous vous donnons quelques informations sur les animations de la librairie Publico pour ces derniers jours de ces premiers jours de juillet, pardon. Voilà, on est bientôt au mois de juillet, là, c'est fini tout ça. Ensuite, un bref rappel du contenu du numéro de juin du Monde Libertaire que nous n'avions pu vous présenter pour cause de congrès de la Grande Fédération Anarchiste. Ensuite, nous vous présenterons le sommaire et les grandes lignes de ce numéro 1885 du Monde Libertaire, opportunément appelé cette saison sous la plage Les Pavés. Enfin, nous voulions profiter de ce tour du monde libertaire pour rendre un hommage au chanteur, compositeur, musicien et poète Lareski Belkacem, plus connu sous le nom de Areski, décédé le 1er juin dernier. Et les pauses musicales qui vont ponctuer cette émission jusqu'à 19h30 et même un petit peu au-delà seront donc des exemples de son travail et tout particulièrement de ses collaborations avec Brigitte Fontaine et Nous allons commencer dès maintenant, après un petit rappel tout de même, puisque Areski est né en 1940 à Versailles, dans une famille kabyle, qui tient un restaurant dans cette même ville, et il baigne ainsi dans une atmosphère musicale entre musique traditionnelle algérienne, le shaabi, et des influences pop et celles de la chanson française de l'époque, la chanson à texte. Hein. Voilà pour les premières influences musicales. Ensuite, c'est en faisant son service militaire, eh oui, qu'il rencontre un certain Jacques Higelin, comme quoi parfois à quelque chose malheur est bon. Cette amitié aboutira à des collaborations musicales, dont 1969, un premier album intitulé Higelin Areski, publié chez Savannah, le label de Pierre Barou. On va en écouter tout de suite un premier titre qui s'appelle « Signalétique » et je tiens à remercier Pascal Loquin de l'équipe de Faites-nous des chansons pour m'avoir transmis les titres de cet album.
Je m'appelle Jacques Joseph Higelin, dit Crabouif.
Je m'appelle Areski, dit Gonflos Premier.
Je suis né le 18 octobre.
Je suis né un 23 janvier à Versailles.
Moi, c'est un brou sur Chantraine. Je suis le seul individu au monde à qui ceci est arrivé.
Et nul n'y peut rien.
Seul, assis devant un miroir, dos à la mer, un homme très courageux, tout en essayant de garder son self-control.
Tout en essayant de garder son self-control,
se regarde vieillir de 13 minutes. 40 secondes. 5 dixièmes.
Radio Libertaire 89.4, c'est le tour du monde libertaire et vous venez d'écouter Signalétique, Higelin et Areski. Et je tiens à préciser que ce qui a orienté un peu les choix musicaux, puisqu'il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à diffuser auxquelles Areski a contribué, c'est un ensemble de titres où on entend sa voix. Ce qui n'est pas le plus courant, même si là, notamment avec Brigitte Fontaine, il a aussi parfois enregistré pas mal de choses. Et là, il était avec son compagnon de régiment, Jacques Higelin. Voilà donc le tour du le monde libertaire. Donc je l'ai dit en préambule, un programme un petit peu différent. Et comme nous ne l'avons pas pu le faire dans l'émission précédente, dans Trou Noir, et qui était l'excellente rediffusion de la conférence du camarade Patrick sur l'intelligence artificielle à Cône il y a pas tout à fait encore un an. Eh bien, je vais donner quelques informations sur la programmation de la librairie Publico. Eh bien, cette semaine, par exemple, le mercredi 1er juillet à 19h, et c'est une initiative du groupe Louise Michel, eh bien, il vous propose une rencontre-débat avec Louise Tassin pour son ouvrage « Comme on les enferme » dans les centres de rétention de Paris à Lampedusa. Partout en Europe, à l'abri des regards, les centres de rétention destinés à organiser l'expulsion des sans-papiers se multiplient. Au nom du contrôle des frontières, des milliers de personnes y voient leurs droits fondamentaux bafoués. Surmontant les difficultés d'accès à ces lieux, Louise Tassin est parvenue à enquêter au cœur et autour de ces dispositifs. Grâce à une immersion inédite dans des centres d'Île-de-France et sur les îles de Lesbos et Lampedusa, elle livre un tableau vivant et documenté de cet enfermement de masse. Louise Tassin est sociologue et l'ouvrage qu'elle publie se trouve aux éditions La Découverte. Donc ça, c'est le mercredi 1er juillet à 19h, samedi 4 juillet à 16h, à l'initiative du groupe Louise Michel, à 16h. Donc oui, rencontre-débat avec les auteurs de la guerre d'Espagne 1936-1939, la démocratie assassinée. Aujourd'hui, de nombreuses recherches et archives, mais aussi des témoignages, permettent d'écrire une nouvelle histoire de la guerre d'Espagne. Cette histoire dévoile le long travail de sable de la démocratie par les forces réactionnaires et l'extrême droite espagnole, bien avant 1936. Elle montre les mécanismes profonds de la dictature franquiste qui va se mettre en œuvre et se penche enfin sur l'expérience au jour le jour des acteurs de cet épisode majeur du XXe siècle européen. Les trois auteurs, Mercedes Justa Rodrigo est historienne à Paris 8. Elle est spécialiste de la dictature franquiste et plus largement des résistances antifascistes en Europe. François Godichaud, quant à lui, est historien aussi. À Toulouse, Jean Jaurès, il a publié une quinzaine d'ouvrages, dont plusieurs livres sur la guerre d'Espagne. Et enfin, Pierre Salmon, historien lui aussi, alors que l'École normale supérieure, spécialiste de la guerre d'Espagne, de la mémoire de ce conflit, et plus généralement des trafics d'armes. Donc voilà une rencontre passionnante, samedi 4 juillet à 16h à la librairie Publico. Leur livre est publié chez Taillandier. Le lendemain, dimanche 5 juillet, à l'initiative du groupe Louise Michel à nouveau, rencontre débat avec Romaric Godin, journaliste économique à Mediapart, auteur de La guerre sociale en France. Romaric Godin est donc journaliste économique, il était à La Tribune, correspondant en Allemagne, et maintenant à Mediapart, et donc après avoir suivi la crise financière et la crise de la dette européenne, il a été en charge du suivi de la politique économique et de la macroéconomie. Il a publié « La guerre sociale en France à la découverte », et donc là, il présentera trois de ses ouvrages. Donc, La guerre sociale, Le problème à trois corps du capitalisme, toujours à la découverte, et puis un texte sur huit marxistes hétérodoxes. Donc, on va parler de marxistes hétérodoxes à la librairie Publico. Donc, on parlera de Luxembourg, je veux que c'est Rosa, Pankhurst, Pankhurst, Lukács, Rühle, Korch, Grossmann et Matic. Voilà, ça ce sont les animations de la Publico et ces dernières animations, c'était le dimanche 5 juillet à 16h. Et maintenant, un nouveau titre de nos amis Higelin et Areski en duo.
J'aurais bien voulu la laine de fallait pas de lune dans le lait la laine de t'écris. La 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 la, une chanson d'amour, la loi de Yoda, la 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 la. Mais par les temps qui courent, la 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 la. Ce n'est bien voulu t'écrire une chanson d'amour, mais par les temps qui courent, ce n'est pas chose commode.
C'était donc Jacques Higelin qui chantait, accompagné en musique par son camarade Ereski. Cette chanson, ça s'appelle « J'aurais bien voulu » et ça dit « J'aurais bien voulu t'écrire une chanson d'amour par les temps qui courent, ce n'est pas chose commode ». Je trouvais ça amusant parce que souvent les jeunes gens, quelle que soit l'époque où ils se trouvent, ont tendance à penser que c'était bien mieux avant et qu'avant on n'était pas inquiet de comment allait le monde. Et ben, le jeune Jacques Higelin, en tout cas, trouver que à son époque c'était pas si facile, donc il semble peut-être que c'est un peu à chaque époque on trouve que c'est moche et que c'était mieux avant. L'essentiel c'est de vivre pleinement sans s'inquiéter de ça. Voilà, donc on est bien dans le tour du monde libertaire sur Radio Libertaire 89.4. Avant d'étudier un petit peu le monde libertaire de cet été, je voulais refaire un petit retour sur le monde libertaire de juin. Petit retour en arrière, puisque comme nous n'étions pas disponibles, nous étions au congrès de la Fédération anarchiste, et donc nous n'avons pas pu vous le présenter le dernier lundi de mai, et donc un petit retour. Alors, de quoi s'agissait-il ? Eh bien, le titre de ce 1884, c'était « No Border, No Nation, Just People », suivi sur la page de couverture d'un A cerclé. Alors, c'était bien sûr le titre du dossier central de ce numéro qui propose un regard sur l'actualité et l'activité de nos compagnons d'un peu partout dans le monde. Nos plus proches voisins, comme l'Italie, avec le 80e anniversaire de la FAI, de la Fédération anarchiste italienne. Des nouvelles du 13e congrès de l'IFA, l'International des fédérations anarchistes, avec, en marge de ce congrès, un entretien avec des membres de Klasna Solidarnost, organisation anarchiste serbe. Vous pourriez aussi trouver, vous pouvez, pas au conditionnel, un focus sur les librairies Freien à Berlin et Aldarui à Barcelone, donc deux librairies spécialisées dans les livres anarchistes ou libertaires et toute la presse qu'on peut retrouver sur ces sujets. Et puis, il y avait aussi des nouvelles de voisins plus lointains, comme ceux du Québec, dont on en peut entend peut-être pas très souvent parler, mais il y a sûrement des choses à faire avec eux, à mieux se connaître. Québec, où une manifestation massive s'est tenue au 1er mai dernier, et au cours de laquelle un groupe s'est vu reprocher la mise en scène d'un simulacre de guillotinage sur une marionnette à l'effigie du ministre du Travail. Bouh, c'est mal. Serge, à côté de moi, opine du chef et désapprouve tout à fait cette mise en scène. Alors, il y avait un petit extrait quand même. L'intégrité symbolique des politiciens est visiblement plus importante que l'intégrité physique des manifestants anticapitalistes. Voilà qui nous rappelle bien des choses, puisque dans notre beau pays, on peut même se faire frapper par la police sans manifester, ou simplement en manifestant sa joie, comme un certain soir de match de foot où des jeunes gens ont eu le malheur d'être au mauvais endroit au mauvais moment, ce qui leur a valu des coups de matraque, des points de suture, et pour l'un d'entre eux, un œil en moins. C'est dommage d'être heureux. Pas quand la police est là, faut faire attention. Toujours dans ce même numéro, No Border, Nunca Más, c'est le titre de l'article, en Argentine, pour rappeler le 50e anniversaire du coup d'État qui vit arriver au pouvoir, la dictature de Vidal et de ses sbires, enlèvement, disparition, torture, assassinat, un des épisodes les plus tragiques et sanglants de l'Argentine et de l'Amérique du Sud. Rappeler aussi encore qu'au Soudan, la guerre continue et qu'elle se fabrique aussi pour les armes dans nos démocraties libérales avancées. Le ML de juin, si je vous en parle, parce qu'il est toujours disponible, notamment à la librairie publique où vous pouvez le trouver. Et outre ce dossier « No Border, No Nation, Just People », tout à fait intemporel, vous retrouvez nos rubriques habituelles « Terrain de lutte »,« Passeport »,« Réflexion »,« Culture », ainsi que deux hommages à des compagnons disparus. Sans oublier de rappeler l'appel, je devais tout à fait l'appel à la solidarité avec notre compagnon Ludo, que son employeur a tenté de licencier. Vous trouverez toute l'explication là-dessus. Que son employeur a tenté de licencier sur les bons conseils du ministère de l'Intérieur, semble-t-il. Drôle de conseil. Et ben voilà, nous allons continuer, nous acheminer petit à petit vers le monde libertaire de l'été avec un nouveau titre. Et cette fois, ça, on va retrouver une forme de transition, puisque c'est un hommage à RSKI. Mais on va retrouver en duo Higelin et Brigitte Fontaine, le noir c'est mieux choisi.
Je me souviens de toi. fille d'un autre toi. C'est mieux choisi le noir.
C'était Le Noir, c'est mieux choisi, Brigitte Fontaine et Gilin qui fredonne, elle l'accompagne un peu dans la profondeur. Nous, on est d'accord, hein, Le Noir, c'est mieux choisi. Ce titre vient d'un 45 tours d'Higelin qui a été ajouté à une réédition d'un des albums mythiques du duo Arischi et Fontaine qui s'appelle Comme à la radio. Voilà donc pour la suite de cet hommage. Alors nous allons commencer à nous occuper de ce monde libertaire, numéro 1885, et le numéro d'été. Et j'ai oublié de vous rappeler que nous sommes donc dans le tour du monde libertaire, que nous sommes sur Radio Libertaire 89.4. Voilà. Alors c'est un numéro d'été, donc il y a 96 pages à lire sans complexe sur les pages. Les plages, 96 pages sur les plages. Alors, il y a une magnifique couverture de Maxence Granger. Je sais pas si Serge, tu as dû la voir aussi. Donc, oui. On voit un monsieur qui est un peu sur une chaise longue, comme ça, il a une longue barbe. Moi, il m'a fait penser à peut-être un de nos compagnons, éventuellement. Il est en train de lire Le Monde Libertaire sur la plage. Et dans la profondeur, il y a une dame qui a une bouée en canard autour de la taille et elle se fait pincer le doigt de pied par un crabe. Donc, enfin, elle s'amuse dans l'eau. Donc, le monsieur, lui, lit sérieusement. Et j'ai regardé la légende et j'ai vu que c'était Pierre Kropotkin et Louise Michel qui étaient à la plage. Alors, je me dis, Maxence Granger va avoir des problèmes parce que Louise Michel semble un peu frivole et Kropotkin, lui, il lit les choses sérieusement.
Et il a une belle barbe, en tout cas.
Il a une belle barbe, ce qui est là, la ressemblance, c'est avéré. Ce qui est historique. Enfin, voilà. Ça, c'est la couverture de ce numéro. Et ben, je vais vous lire en même temps l'éditorial qui est signé par Pouche, un des membres du comité de réaction du Monde Libertaire. Et nous saluons le nouveau comité de réaction du Monde Libertaire, puisque certains sont partis. Et je crois qu'il y a un nouveau. Et je crois que c'est Patrick, si je ne dis pas de bêtises. Donc salut Patrick et bienvenue dans le comité de réaction du Monde Libertaire bonne continuation à ceux qui poursuivent leur travail au profit de cette belle publication. Ah, Monique.
Juste une petite précision pour les auditeurs, parce qu'on a beaucoup parlé de Patrick qui, sur l'émission précédente, ce n'est pas le même Patrick qui est au comité de rédaction du Monde Libertaire.
Absolument, tu as raison, c'est un autre Patrick, qui est dans une autre géographie, plutôt du côté de la Savoie, si je ne dis pas de bêtises, de la Haute-Savoie même. Alors voilà l'éditorial du camarade du compagnon Pouche. Il titre « Ah bon, on est en vacances ?» Le joli temps des vacances, pour qui et pourquoi ? Ce numéro d'été du Monde Libertaire s'ouvre sur deux dossiers dont l'actualité se montre plutôt brûlante. Pas de vacances pour l'antifascisme, au moment même où l'économie du tourisme bouffe la planète et la pensée sous un air de trumpisme décomplexé dans tous les coins du monde. Dans mon petit patelin, dans mon patelin de Normandie, nous dit Pouche, tout le décorum est en place pour les commémorations du 82e D-Day, et le tourisme guerrier bat son plein avec force. Défilé de jeeps, bannières étoilées conduites par des cinquantenaires, il est gentil, affublés en GIs kaki, qui n'ont rien vu, rien vécu des atrocités de la guerre. Le Grisby coule à flot, déchaîné, et on oublie dans les beuveries du soir que ceux qui ont laissé leur vie pour que ça ne revienne jamais ne l'ont pas fait contre les débauches, mais contre le nazisme. Celui-là même dont on sent l'odeur putride remonter de ses cendres partout où le capitalisme privé comme d'État pose ses sales pattes. Il y a décidément deux mondes parallèles, celui des jouisseurs dominateurs et celui des exploités qu'ils abandonnent à la misère. Puant du luxe dont ils profitent, les premiers, sans vergogne, vont parcourir le monde en évitant les lieux et les êtres qui plient sous les bombes financées par leurs propres rentes. Les analyses vont bon train sur l'offensive extrême droitière qui ne peut rester sans réponse, sur l'opposition guerre et paix qui impose à la pensée anarchiste un questionnement permanent, sur le tourisme et toutes ses dérives sociales et écologiques et la réflexion nécessaire sur la nécessité d'œuvrer pour une décroissance libertaire assumée. L'espéranto, lui, retrouve dans le monde libertaire une place régulière, cette langue pour toutes et tous sans pouvoir ni frontières. Enfin, les retours sur les congrès de l'IFA et de la Fédération anarchiste francophone montrent la vitalité de la pensée libertaire dans ce monde qui ne perd rien, qui se perd à ne rien chercher. Et voilà, donc c'était signé Push pour le comité de réaction du Monde Libertaire. Il vous rappelle que votre avis, vous, lecteurs, les intéresse. Et il serait très heureux que vous puissiez donner votre opinion sur la production, sur les articles publiés par le Monde Libertaire et éventuellement dire ce que vous pourriez attendre. Donc vos prières, toutes laïques, s'il vous plaît. Vos remarques, critiques et commentaires. Et donc il y a un sondage en ligne que vous pourrez trouver dans le journal lui-même. Et aussi, à mon avis, le même avis sera présent dans le Monde Libertaire en ligne, puisque le Monde Libertaire a un site que vous pouvez consulter et vous pouvez retrouver certains des articles ou des numéros anciens et puis aussi des informations qui ne sont pas publiées dans le Monde Libertaire. Voilà, nouvelle pause musicale du côté. Et cette fois, on retrouve Areski et Fontaine en duo dans une chanson, un morceau qui s'appelle « L'éternel retour ».
J'en ai passé des nuits à douter du soleil.
J'en ai passé des jours à douter des étoiles.
J'ai rêvé dans un buis
à chuter le sommeil. Et l'éternel retour des reflets et des voiles. J'en ai passé des nuits à douter du soleil. J'ai rêvé dans un puits la chute et le sommeil. Je te prenais pour rien,
tu te prenais pour tout.
Je me prenais pour tout,
tu me prenais pour rien.
Je me prenais pour rien,
tu me prenais pour tout.
Je te prenais pour tout,
tu te prenais pour rien.
Je te prenais pour moi, tu me prenais pour toi. Je me prenais pour toi, tu te prenais pour moi. J'en ai fait des exploits, j'en ai fait des manières.
J'en ai joué des jeux et j'en ai fait des guerres.
J'en ai dicté des lois,
j'en ai mangé des pierres.
J'en ai volé du feu et découvert des terres. J'en ai fait des exploits, j'en ai fait des manières. J'en ai dicté des lois, j'en ai mangé des pierres.
J'en ai vu, j'en ai lu,
j'en ai su, j'en ai cru.
Sans jamais rien savoir
et sans jamais rien croire. De berlu en bévule et de flux en reflux.
J'en ai cru des miroirs,
j'en ai su des histoires. J'en ai cru des miroirs, j'en ai su des histoires. Sans jamais rien savoir
et sans jamais rien croire.
J'en ai passé des nuits à douter du soleil. J'en ai passé des jours à douter des étoiles.
C'était l'éternel retour Areski et Fontaine en duo, donc puisque effectivement Areski est devenu le très 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 proche et vraiment le l'alter ego de Brigitte Fontaine sur de nombreux disques. Celui-ci, c'était un CD qui s'appelle Baraka. Nous sommes donc dans le Tour du Monde Libertaire sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste. Et nous allons continuer à vous parler du numéro d'été du Monde Libertaire, un très beau et très riche numéro de 96 pages à lire sans complexe sur les plages. Et, outre le dossier central de ce Monde Libertaire, d'été, dossier consacré aux vacances et sur lequel nous reviendrons dans la séquence suivante, je vais vous indiquer un petit peu quel en est le sommaire et puisque vous allez pouvoir y retrouver la plupart de vos rubriques habituelles. Nous avons l'habitude, quand c'est le cas et que nous avons de tristes nouvelles, de commencer par une rubrique in memoriam dans laquelle nous saluons les compagnons disparus. C'est le cas ce mois-ci d'un compagnon Bonnoiré qui est décédé le 22 mai dernier. Et donc vous retrouvez différents hommages signés Thierry Guilabert, Tide Rosel, André Faber et un du groupe Kropotkin de la Fédération Anarchiste. Donc voilà, vous saurez tout de l'activité, de l'implication de ce compagnon au fil des années. Peut-être qu'il faut tout de même rappeler son expérience marquante comme appelé pendant la guerre d'Algérie, dont il publiera un récit qui a été rapidement interdit en 1961 et qui s'appelle « Les égorgeurs » et qu'il est toujours recommandé de lire pour constater ce que la guerre peut produire chez des individus, même peut-être très bien intentionnés à leur départ.
Marqué à l'époque, hein, ouais. Il y avait une bonne diffusion. Hein. Heureusement, d'ailleurs, par rapport au sujet.
Je crois que ça a été réédité aux éditions Libertaires, c'est ça. Voilà, donc ça doit pouvoir se trouver. Autre rubrique habituelle.
Tu voulais signaler quelque chose.
Oui, je voulais dire qu'il était connu aussi pour avoir écrit « Mieux vaut boire du rouge que broyer du noir ».
Oui, d'ailleurs, il y a une photo associée à l'article qui donne la couverture de ce livre. Il faut dire qu'il a travaillé beaucoup dans l'alimentaire. Et quand il y avait un rassemblement à Nard, notamment du groupe Kropotkin, souvent, quand il pouvait être là, c'est lui qui animait un peu l'équipe de mouches et on mangeait très bien.
Il a tenu un restaurant dans les Pyrénées. Et je crois qu'il y a une recette qui est citée, qui est détaillée dans le... dans le Monde Libertaire, donc comme ça on pourra apprendre à cuisiner à sa manière. Salut à lui donc. Terrain de lutte, donc retour de ce côté sur le 84e congrès de la Fédération Anarchiste avec le texte des deux motions adoptées à cette occasion, donc l'une qui est intitulée « Contre l'état d'alerte de sécurité nationale, résistance » et le second qui est intitulé « Liberté, j'écris ton nom ». Ces deux textes, nous les avons lus il y a quelques semaines au début de Trou Noir, donc on peut les retrouver dans une des émissions précédentes. Vous trouverez aussi le texte de l'intervention de la Libre Pensée, toujours au congrès de la Fédération Anarchiste. Une motion adoptée, là il s'agit du congrès de l'IFA, l'International des Fédérations Anarchistes, et son titre c'est « Contre la dictature globale de l'État et du capitalisme, contre la guerre et le fascisme, organisation, internationalisme et révolution sociale ». Autre texte militant, le communiqué de Sudrail contre le licenciement illégal de Ludo en raison de son activité politique. J'en ai dit quelques mots auparavant. Et puis, comme évoqué dans le texte de Push, eh bien, l'apparition de la première rubrique bilingue français et espéranto. Et nul doute que nos camarades de Radio Libertaire, de Radio Espéranto, sont sans doute de bons animateurs de cette rubrique. Enfin, rubrique suivante, antimilitarisme. Je me disais en l'écrivant et en la découvrant, je me disais, j'aimerais bien qu'il y ait des rubriques qui disparaissent dans le Monde Libertaire. Je crains que celle-là, c'est pas pour tout de suite. Quoi. Dans cette rubrique antimilitarisme, vous retrouverez le texte de la coordination régionale anti-armement et militarisme, le CRAM de Lyon, contre l'offensive éducative et culturelle de l'armée et l'imposition d'un esprit de défense par l'État. Tout ça en noyautant l'école, les collèges et les lycées. Dans le même état d'esprit, à Saint-Nazaire, c'est Élodie du groupe La Sociale de Rennes qui nous raconte comment on veut chasser le kaki des écoles en faisant la guerre à la guerre. Et il nous fait le récit de mobilisation récente dans la région de Nantes et dans l'Ouest. Sujet antifascisme, Nadar nous propose un texte où il dit que le propos de le combat contre le fascisme algorithmique. Voilà. Et donc c'est le fascisme algorithme de l'intelligence artificielle et de tous ces dispositifs qui menacent de réduire nos libertés. Rayon antifascisme toujours, avec une nouvelle titrée Matin Brun, et elle est proposée par Franck Pavlov. Ensuite, Hakim, toujours dans cette rubrique antimilitarisme, Hakim, par ailleurs membre de l'équipe de l'émission Médias et Antifascisme, tous les deuxièmes vendredis du mois à 11h30 sur Radio Libertaire, il nous propose un long texte où il revient sur les liens entre le réseau Atlas, le groupe Bolloré et Pierre-Édouard Sterrin. Tous ces réseaux s'allient pour bâtir le fémo-nationalisme en France, leurs offensives répétées et coordonnées contre le planning familial notamment, donc des personnages et des manœuvres dont il vaut mieux être conscient. Enfin, autre rubrique au rayon antimilitarisme, celle où vous y trouverez un texte du groupe Salvador Seguí. Il est intitulé « Ils ont pris nos mots, petit traité de désencerclement à l'usage des libertaires ». Et oui, tous ceux qui brandissent le mot « révolution », par exemple, ne sont pas toujours des révolutionnaires. Loin s'en faut, on a connu ça au milieu du siècle précédent. Révolution nationale, des choses comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, autre rubrique traditionnelle du monde libertaire, c'est la rubrique passeport à l'international, donc. Alors, vous y trouverez le troisième opus d'une série de six articles de N. Hadar. Il est intitulé « Paix, comprendre les blocages, ouvrir les possibles ». Ça, c'est le titre de la série. Et dans ce troisième numéro, il va développer pourquoi la dissuasion est une escroquerie mathématique. Ensuite, depuis l'Espagne, vous trouverez un communiqué de la CNT AIT sur la crise interne que traverse actuellement cette organisation. Ils nous disent « Nous ne disparaissons pas, nous ne disparaîtrons pas ». Eh bien, on leur souhaite force et vitalité et longue vie. Espagne toujours, un article dans lequel Daniel Pinos, qui était autour de cette table il y a deux semaines maintenant, revient sur les scandales de corruption qui touchent de plus en plus près le Premier ministre Pedro Sanchez. Il semble qu'il, lui, pour l'instant, n'est pas visé personnellement, mais il est un peu acculé de partout. Madame, je ne sais pas, les frères, les oncles, enfin, ça se rapproche beaucoup. Voilà, ça semble être une tradition qui, en Espagne, n'a pas de parti, parce que tant le Parti Popular que le Parti Socialiste, tout le monde trempe allègrement dans la corruption en Espagne. Ramon, de son côté, nous dit « Liberté pour Gabriel Pompo da Silva ». C'est un militant qui est menacé d'extradition de l'Espagne vers l'Italie. Et en lisant l'article, vous saurez pourquoi. Vous trouverez aussi quatre planches d'une BD qui est consacrée au parcours d'un militant russe qui s'appelle Ruslan Siddiqui. C'est un anarchiste et partisan russe de 36 ans. Et il a été condamné, je crois, il y a peu de temps, à 29 ans de prison. C'est vraiment un récit très émouvant. Ça retrace l'immense courage de ce garçon qui agit de façon très, très déterminée. Tout ça est raconté avec de très beaux dessins. Donc on vous encourage à regarder tout ça. Donc ensuite, il y aura le dossier central sous la plage Les Pavés, on va y revenir un petit peu plus tard. Et puis, il y a ensuite la rubrique Réflexion, vous voyez que c'est très riche dans ce numéro. Alors Philippe Godard, que nous avons reçu aussi dans Trou Noir, propose un texte qui s'appelle « Une pédagogie anarchiste avec des jeunes décrocheurs ». Et il interviendra aussi sur ce thème aux prochaines récusiennes à Sainte-Foy-la-Grande. Ce sera du 15 au 18 juillet prochain. Ça approche, ça approche. Henri, lui, du groupe René Lochu, a choisi de plancher sur un sujet du bac de philo 2024. Alors, c'est un titre qui peut intéresser les anarchistes, puisque le thème proposé, « L'État nous doit-il quelque chose ?» Élève Serge, est-ce que vous avez rendu votre copie ?
Oui, en tout cas, c'est le modèle. On voit que ça a été comme ce qui créait la plume et tout ça. Ça m'a paru sympathique, tout ça. Ça me rappelle des vieux souvenirs.
Oui, absolument. Donc on pourrait demander au prochain congrès à tous les militants de plancher sur ce thème. On va voir. Je ne suis pas sûr qu'on récolte l'approbation générale. Ensuite, un autre texte, retour sur l'idéologie de l'efficacité révolutionnaire. C'est un texte qui est proposé par Jean-Luc Debris, qui nous invite à cette réflexion salutaire et toujours d'actualité. Et Serge, j'avais envie de dire quelques mots.
Oui, j'ai suivi cet article, il m'a bien plu. Bon, il est bien écrit, bon... Les gens qui me connaissent savent que j'aime mieux les textes bien écrits, mais c'est pas que ça. C'est à la fois il part de l'actualité, donc je vais parler rapidement, mais en même temps il rappelle un certain nombre de choses historiques qui pourraient éclairer un petit peu ce qui se passe dans cette actualité et qui sont malheureusement souvent oubliées. Et en plus, il termine par quelques citations de Camus. Donc je sais pas s'il a pensé à moi, mais en tout cas tous ces éléments ont fait que ce texte m'a intéressé. Donc très rapidement, il est question d'un livre, je pense qu'un certain nombre de lecteurs, s'ils ne l'ont pas lu, du moins en ont entendu parler, ben ça fait quand même pas mal de bruit. Bon, ça date quand même de quelques mois, je m'en rappelle plus exactement qu'il est sorti. Bon, il s'appelait La Meute, en fait. C'est une enquête, en fait, sur comment fonctionnent les filles. Voilà. Et je le dis tout de suite, dans le texte Jean-Luc Debris, il va être question notamment du chef, parce que bon, quand même, c'est important dans ce type d'organisation, mais il n'y aura pas son nom. Donc je ne dirai pas son nom non plus. Donc essayez de deviner de qui il s'agit. Mais je pense que c'est très bien, parce que ça montre, c'est pas parce qu'il y a un chef qui a cette attitude, etc. C'est parce que c'est tout un mode d'organisation de type, bon, trotskiste ou léniniste qu'on retrouve, voilà. Donc il s'agit évidemment de LFI, et bon, il dit qu'il y a eu évidemment des réactions à la fois à la droite qui se félicitait, et puis bon, évidemment, les partisans qui étaient vraiment enragés, quoi. Alors qu'en fait, à la lecture, Jean-Luc Debris, il n'a pas appris grand-chose. Pourquoi ? Parce qu'il sait comment fonctionne une organisation avec des principes léninistes. Bon, il y a des chefs qui s'entourent de gens qui les suivent, qui les applaudissent, s'il faut, mais surtout qui les suivent. Et puis les gens qui sont pas d'accord, ils rappellent quand même, bon, on les vient. Bon, vous pouvez peut-être penser par exemple à Ruffin, mais il n'y a pas avec lui. Bon, je ne défends pas Ruffin, on s'en fout. Mais c'est, disons que ce qui l'a intéressé, c'est de dire, revient à la surface tout un tas de choses qu'on a connues historiquement. En fait, c'est une organisation qui a un fonctionnement anticléniniste, mais il reconnaît qu'à la base, il peut y avoir des gens intéressants qui s'insèrent, qui sont dans la lutte locale, qui sont intervenus au moment des Gilets jaunes. Enfin, il cite... lui, ce qu'il met en avant, c'est ce mode de fonctionnement où on ne discute pas. Enfin, on ne discute pas. Si on commence à discuter, on est mis dehors, quoi. Et bon... Il rappelle quand même que la personne dont je n'aurai pas le nom vient quand même de l'OCI, bon, qui n'est pas forcément un modèle de démocratie et qui a des fonctionnements, des idées sur le fonctionnement autoritaire. Donc, voilà, il dit que finalement, on retrouve une tradition de type bolchevique, quoi. Un héritage léniniste, bon, etc. Je pense que la plupart des auditeurs voient de quoi on parle. Il dit quand même au passage, donc, il en profite de faire des petits rappels à l'historique, et moi qui me tient assez à cœur, qui est assez peu connu, c'est, alors il fait le parallèle évidemment avec la montée du Parti communiste après la révolution soviétique, et il rappelle quand même qu'il y a des gens, mais il faut dire qu'on n'avait pas trop d'infos, qui venaient du syndicalisme révolutionnaire et qui se sont ralliés et qui ont joué un rôle, même qui ont créé le premier parti communiste, ça c'est pas très connu, je vois qu'ils le citent pas ici, mais comme des gens comme Monat ont participé à la création d'un premier parti communiste, qui a pas évidemment, comme c'était plutôt des amers, ils n'ont pas été reconnus. Mais il n'empêche que, y compris l'évolution du syndicalisme avec la mainmise, voilà. Donc il rappelle un peu tout ça. Bon, je vais très vite. Ils disent voilà, mais finalement c'est toujours ce type d'organisation, c'est blanc-noir, quoi. On est pour, on est contre. Donc il n'y a pas possibilité de dialogue. Moi j'ai connu cette époque-là, finalement dans le même domaine, quand on était critique par rapport à ce qui passait en URSS, comme il fallait pas en parler, comme il dit, il fallait pas désespérer Billancourt, c'était la formule. Bon, donc on était forcément pour le condamner. en face. On est forcément pour l'impérialisme américain. Ce n'est pas des choses qui ont complètement disparu, d'ailleurs, malheureusement. Voilà, bon, je vais terminer par les deux phrases, allez, deux phrases de Camus, où il montre qu'il y a quand même une autre attitude possible quand on veut en un esprit libertaire. Donc, citation de Camus, dans L'Aube révoltée, hein, un bouquin que je recommande fortement, entre autres, mais quand même, c'est très intéressant. Les pensées révoltées, celles de la Commune ou des syndicalistes révolutionnaires, n'ont cessé de crier cette exigence, celle de la résistance de l'esprit libertaire face à l'empire idéologique qui fait revenir le socialisme en arrière. Donc, cette exigence, on l'a lancée à la face du nihilisme bourgeois comme à celle du socialisme césarien. Bon, j'arrête là, il y a quelques autres. Bon, il y a rappel aussi la Tchéka, Kronstadt, Goulag, pour ceux qui auront oublié tous ces détails de l'histoire. Voilà.
Des petits rappels.
Alors, oui, tiens, la dernière phrase, quand même, là, elle est de Jean-Luc Debruy. Lorsque la fin justifie les moyens, rien ne va plus. C'est simple.
Hein. Oui, puis je trouve que dans une période où on va avoir des élections, dont on va nous dire qu'elles sont absolument décisives et tout ça, on sent que l'idée d'efficacité révolutionnaire va être mise au goût du jour. On verra après.
Non, on va dire en gros. Hein.
Merci Serge pour un éclairage sur ce texte. Toujours dans la rubrique réflexion, le fameux Héphaïstos nous adjure, lui, à propos de l'intelligence artificielle, agir nom de Dieu, nous dit-il. Ben oui, il va falloir commencer à agir. Ça se mobilise un petit peu et nous les avons reçus la semaine passée. Quelques-uns qui avaient envie d'agir autour de cette idée d'intelligence artificielle et d'en parler. Ensuite, il nous invite à participer aux rencontres estivales organisées par le collectif Écran Total, d'une part les 26 et 27 juillet à Beauchastel, c'est en Sud-Bourgogne, et puis les 28 et 1er août par la revue, pas par la revue, mais l'organisation Écran Total elle-même.
Qu'on a reçu il y a longtemps, qui ont commencé à démarrer sur cette antenne, hein, qui est intéressant parce qu'il s'intéresse justement aux applications concrètes, quoi, dans le type de travail, comment l'IA, enfin tout ce qui est mis en place fait qu'il y a de moins en moins de rapports humains, à la fois entre les gens qui travaillent et aussi entre les gens qui reçoivent. Voilà, donc ceux qui veulent peuvent écouter cette émission sur notre site.
Nous avons ensuite, comme souvent, la rubrique Libertaire. On vous y propose un texte lu au 84e congrès de la Fédération anarchiste à Merlure en mai 2026. Il s'intitule « Énergie, pas de pétrole et pas de bonnes idées ». Il est signé d'un certain Nicolas du groupe Gaston Leval. De son côté, Antide Scheffer nous explique...
Très bon texte. Je ne dis pas ça parce qu'il est bon.
D'Antide Scheffer. De son côté, Antide Scheffer nous explique, très bon texte lui aussi, que le capitalisme vert existe et il a même une histoire. Enfin, Jean-Pierre Tertrais du groupe La Sociale, toujours fidèle au rendez-vous de la rubrique Libertaire, nous explique que du hors-sol au terrestre, l'atterrissage est périlleux. Et enfin, Jean-Pierre Levaret de Rouen revient lui sur les 50 ans de la catastrophe de Seveso, c'était en Italie, 50 ans cette année. Enfin, rubrique culture de ce numéro très très riche. Alors, vous auriez comme d'habitude des fiches de lecture et des recensions. Je vous les laisse les découvrir au gré de vos baignades ou randonnées pédestres ou cyclistes, comme il vous plaira. J'attire votre attention sur un jeu qui nous est présenté. Il s'agit de La Revanche des Anards. C'est le titre Un Ananar Perrault. Comme un perro, quoi. Jeu qui a été expérimenté à la Louvière, en Belgique, le 24 mai dernier, à l'initiative du groupe Ici et Maintenant. Là, je cite, « La Revanche des Anards est un jeu coopératif permettant de découvrir différentes personnalités anarchistes et de se familiariser avec quelques-unes de leurs idées et pratiques. » Les ennemis à combattre sont l'État, le capitalisme, le patriarcat, la bourgeoisie, ou le fascisme, et l'adversité, ce sera subir la répression policière, les attaques fascistes, les campagnes médiatiques et les conflits internes au groupe. voilà de quoi occuper vos soirées d'été qui peut-être seront perturbées par des pluies incessantes, ne sait-on jamais. On pourrait essayer d'organiser un trou noir consacré avec ce jeu. Je ne sais pas si c'est possible de faire ça à la radio, mais voilà. Vous y trouverez enfin quelques informations sur la fédération. Et puis, je ne voulais pas terminer ce sommaire du numéro 1885 sans mentionner la dernière publication des éditions du Monde Libertaire. C'est l'œuvre de Julien Caldironi, le titre « Compagnes et compagnons d'hier ». Vous y trouverez une collection savoureuse et cocasse de brèves journalistiques et de sources policières sur les agissements sans scrupules de nos compagnons d'antan. Alors c'est parution des éditions du Monde Libertaire, d'ores et déjà disponible à la librairie Publico, éventuellement sur commande, et puis peut-être un petit peu plus tard dans toutes les bonnes librairies. Et c'est comme toujours très accessible au prix de 10 euros. Voilà un peu de musique avec Ariski et Fontaine à nouveau.
Le grand-père, on peut dire qu'il a été heureux. Il a pris le bon côté des choses. Les dernières années, il les a passées à sculpter de la vigne sur les buffets et les chaises. À se balader avec les gosses, faire de bons petits plats, aller voir le lever de la lune au-dessus des genêts. Jamais une réflexion désagréable, jamais un regard malveillant. Tu arrivais chez lui à n'importe quelle heure. Il ouvrait une bouteille de bon vin, une boîte de foie gras, et allez donc, qu'est-ce qu'on riait avec lui. Si quelqu'un était agressif, il le regardait bien. Et je ne sais pas comment il s'y prenait, il le calmait. Il n'aimait vraiment pas la bagarre, mais vraiment pas. Il disait qu'il n'était pas là pour ça. En le voyant quelquefois, on se demandait, et sa femme, qu'est-ce qu'elle est devenue? Ça, c'était le mystère. Peut-être ça avait chauffé autrefois, il n'en parlait jamais. On ne savait pas du tout ce qui s'était passé. Seulement une fois, j'ai entendu son fils qui lui disait: tu ne trouves pas qu'elle t'a assez fait souffrir? Il a répondu: et moi, mon petit gars, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Il a dit ça deux fois. Ça fait plus de 2 ans que je ne l'ai pas vu. Je ne tourne plus là-bas. J'espère qu'il va bien.
C'était Le Grand-Père, Ariski et Brigitte Fontaine, ouais, sur un CD qui s'appelle L'un n'empêche pas l'autre. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, à 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, et vous êtes en plein dans l'émission Le Tour du Monde Libertaire, dans lequel nous vous avons partagé le numéro qui ne va pas tarder à rejoindre vos boîtes aux lettres ou vos librairies. Donc Le Monde Libertaire numéro 1885 qui s'appelle Sous la plage Les Pavés, donc qui vous incite à un été militant. Alors donc c'est évidemment, c'est un numéro d'été, donc on parle vacances et tourisme, voilà. Alors 2026, c'est une année d'anniversaire, donc de retour en arrière. Cinquantenaire du coup d'état militaire en Argentine, cinquantenaire de la catastrophe de Seveso, on l'a rappelé un tout petit peu auparavant, quarantenaire de la catastrophe de Tchernobyl, 90 ans de la révolution espagnole de 36, mais aussi 90 ans du Front populaire et des fameux congés payés. Mesure arrachée au pouvoir par la grève générale et qui n'était pas du tout au programme du dit Front populaire. Cette mesure en est pourtant devenue l'icône, véhiculant l'image des ouvriers français qui découvrent les joies du farniente sur les routes de France à bicyclette. Pourtant, parmi celles et ceux qui vont goûter ces deux semaines de repos, nombreux vont être les familles qui vont non pas se diriger vers les plages, mais vers les campagnes dont ils sont originaires pour y retrouver leur famille et y donner un coup de main aux récoltes qui battent leur plein. Aujourd'hui, alors que les salariés peuvent prétendre à 5 semaines de congés payés, tout le monde ne part pas en vacances. Seuls 60% des Français partent au moins une semaine. Ce qui veut dire que 40% ne bougent pas. Et ce sont bien sûr les plus pauvres qui subissent cette apartheid sociale, tant les vacances constituent un marqueur social. En vacances donc, avec le CRML, on va partir et tout le monde peut partir pour un dossier dont voici le sommaire et nous détaillerons quelques-uns de ces articles à la fin du sommaire avec Serge. Alors tout d'abord, premier article, contre la marchandisation du monde et des imaginaires, le tourisme, production du capitalisme. Les mouvements anarchistes se sont-ils suffisamment emparés de la question du tourisme? C'est ce que se demande Franck Plazané. Franck, toujours lui, pour éclairer cette interrogation, a rencontré Rodolphe Christin. Il a fait une entretien qui est intitulé « La critique libertaire de la société a fait preuve d'une clairvoyance qu'il ne faut pas perdre de vue ». Rodolphe Christin est l'auteur de plusieurs livres autour du tourisme, par exemple le manuel de l'antitourisme ou « Peut-on voyager encore ?» On y reviendra un petit peu plus tard. Ennadar, toujours prolifique dans sa production de textes pour le monde libertaire, nous propose « Le tourisme post-colonialisme ». Suivi, c'en est un petit peu l'illustration de comment lutter contre. Ce n'est pas de la tourismophobie, c'est de la lutte sociale. Quelques idées sur l'auto-organisation contre la touristification à Barcelone. Un texte de Daniel Pardo Rivacoba. Ensuite, une société à défaire, c'est signé Henri Mora, qui est l'auteur d'un texte, d'un livre du même titre, publié en 2022 aux éditions de l'Échappée. Et Henri Mora y revient sur les désastres touristiques et les effets politiques, sociaux et environnementaux d'une industrie dévorante. Ensuite, le pape voyage dans sa bulle. C'est en tout cas ce que Mariama, du groupe Louise Michel de la Fédération anarchiste, nous dit. Et elle dit de lui « Va des rétro, papanas !» Donc, sur le pape qui voyage dans sa bulle par Mariama. Ensuite, « Low cost, non merci », c'est le titre de l'article de David Derien, sous-titré malicieusement par la rédaction comme un avion sans gêne, comme la fameuse chanson de Charlie Couture, soit de l'influence des vols low cost sur la modification des pratiques touristiques. Dans ce dossier, vous trouverez aussi, si vous n'avez pas encore décidé d'où vous avez tenté de vous échapper vers des campagnes peut-être un peu plus fraîches que les villes forcément surchauffées, eh bien, vous allez trouver de nombreuses propositions pour passer des vacances anarchistes, studieuses et pas ennuyeuses. Alors, vous allez voir, prenez vos crayons, mais vous trouverez tout ça noir sur blanc dans le numéro du Monde Libertaire. L'OCL, l'Organisation Communiste Libertaire, vous propose ses rencontres estivales dans le Poitou. Ce sera au camping, je n'ai pas l'adresse, mais ce sera du 15 au 21 juillet. D'accord, donc là, vous êtes dans le Poitou. Et je dirais que juste avant, vous pouviez être à Sainte-Foy-la-Grande pour les reclusiennes. De là, vous pouvez remonter avec votre bicyclette dans le Poitou. Et du 15 au 21 juillet, vous êtes avec l'OCL. Hein, c'est le début d'un bon programme, ça. Ensuite, la CNTAIT de Toulouse, elle vous confie, là, il faut redescendre un peu au sud, hein, mais on reste à peu près à l'ouest, donc toujours avec votre bicyclette. Elle vous confie à réfléchir au soleil pour lutter ensemble. Joli programme. Camping toujours. Et là, ce sera du 2 au 9 août prochain. Et c'est dans le sud Aveyron. Pas besoin d'aller jusqu'à Toulouse, sud Aveyron. Donc on est bien. Et puis, il y aura aussi les camps d'été des comités syndicalistes révolutionnaires, les CSR. Alors en lisant, j'ai eu un peu peur parce que CSR, j'ai lu trop rapide, j'ai fallu lire CRS. Je me dis, qu'est-ce qu'ils viennent faire ? Non, rien à voir. Les syndicalistes du CSR donc vous proposent, eux, de les rejoindre du 11 au 16 août. Je ne sais pas où ça se passera, mais pour eux, le cri d'hier reste d'actualité. Bien-être, liberté, solidarité, pour la sociale, par la socialisation du temps libre. Voilà, donc pour votre programme des vacances, hein, déjà. Et je rappelle qu'un peu avant les Reclusiennes, il y a la Marseillaise. Et là, c'est les 13 et 14 juillet, mais c'est en Savoie, en Haute-Savoie. Il va falloir voyager un petit peu, mais déjà, ça fait un petit programme de vacances, quand même.
Oh, hein, c'est un très joli coin, la Haute-Savoie.
Ouais, c'est bien.
Il y a des gros panards, un gros panard sympa.
Absolument, il s'appelle Alpanard. Ça donne envie de les rejoindre, quand même. Parce qu'on sent qu'avec eux, ça va bien se passer. Alors, Serge, je crois que je vais te donner un peu la parole, parce que moi, je parle trop. Et tu as repéré, tu avais envie de nous parler un petit peu du texte de N'Hadar, qui envisage sa critique du tourisme comme une pratique, finalement, post-coloniale.
Oui, effectivement, il a l'avantage de mettre l'accent sur un certain nombre de travers de ce qu'est le tourisme aujourd'hui. Alors, je dis pas que tous les touristes vont se promener un peu à l'étranger pour avoir une attitude décrite comme ça, mais moi, j'ai de plus en plus d'articles dans un certain nombre de régions qui vont arriver un afflux, mais ça peut être en France, ça peut être ailleurs, un afflux de gens qui posent d'énormes problèmes aux locaux, justement. Donc, je vais donner quelques exemples. L'introduction, on voit quand même la vision que N'Hadar peut avoir, qui correspond malheureusement à une réalité. Le tourisme contemporain n'est pas une fenêtre ouverte sur l'ailleurs, mais une machine à broyer les cultures. Parce qu'évidemment, tout ça se fait avec quelques exemples de cultures qu'on va présenter, qui sont en fait complètement des trucs pour touristes, c'est le cas de le dire. Et puis aussi, il dit que la dernière trouvaille du capital, le tourisme pour vendre du rêve en liquidant la réalité. Je trouve que c'est des phrases pas mal qui vont assez vite. Alors ici, dans un certain nombre d'exemples, évidemment, je ne vais pas tout reprendre, mais c'est pas du tout quelque chose négligeable, puisque le tourisme pèse environ pour 8% du PIB mondial. Voilà, alors c'est peut-être... ça recoupe un peu ce que tu avais dit tout à l'heure. Qui se promène 75% des touristes internationaux proviennent des 20 pays les plus riches. On s'en doutait, hein, mais donc c'est des chiffres, là. Donc, finalement, voyage, un privilège de classe. Enfin, t'avais, dans la présentation, t'avais un peu donné ça. Mais on peut dire, mais les touristes, ça va donner de l'afflux d'argent, c'est formidable, ça va développer les pays plus pauvres. Et donc, là aussi, un chiffre. En fait, 40% des revenus touristiques s'évaporent parce que, les sociétés qui organisent, soit l'hôtelier, ça reste souvent des sociétés étrangères. Enfin, il y a un certain nombre d'exemples comme ça. Et puis, en fait, ce qu'on va voir des cultures, ça rejoint ce qu'il y avait dans l'introduction sur la culture. En fait, les cultures qu'on présente sont réduites à des attractions. Il y a une phrase d'un guide, je crois, d'ailleurs, local. Mmh. Oui, c'est ça, qui est un guide local. Nous ne sommes plus des êtres humains, nous sommes des décors. Ils sont très bien. Il y a des selfies partout. Il rappelle quand même quelque chose. Là aussi, j'aime bien toujours qu'il y ait un petit rappel historique. Le tourisme, il date pas d'aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était un peu différent. C'est-à-dire que on montrait ces cultures sous forme de zoo, c'est-à-dire zoo humain, quoi. En 31, à Paris, je pense qu'il y a quand même des gens qui se rappellent d'avoir entendu parler de ça. Donc, des milliers de personnes sont venues, on exhibait comme des bêtes de foire, des personnes d'Afrique, d'Asie, d'Océanie, c'est bon de rappeler ça. Aujourd'hui, ça paraît un peu plus soft, hein, mais en fait, c'est complètement artificiel, on va le voir sur place, on va voir les Mayas, on va voir des choses comme ça, mais enfin, en fait, c'est complètement du folklore, quoi. C'est découpé d'une réelle culture. Voilà. Donc, la conclusion de ces... pas tout à fait de l'article, mais d'une partie de l'article, c'est que le tourisme moderne, en fait, est l'héritage des colonies, d'où le titre, est revisité en version éthique, des guillemets, parce qu'il y a du tourisme éthique, et rentable. Évidemment, faire du fric, ça, c'est normal. Voilà. Autre chiffre qui rappelle aussi, parce que bon, tout ça se fait soit dans des grandes croisières, soit il faut prendre des avions. Bon, on génère quand même 11% des émissions mondiales de CO2. Bon, je ne sais pas si ça a une importance sur le climat ou pas. Enfin, c'est pas génial. Bon, il cite aussi les coraux qui disparaissent, enfin tout un tas de choses. Alors, il y a aussi un autre aspect. Je vais aller très vite, mais je pense que quand même les gens se rendent un peu compte. C'est l'exploitation des gens qui travaillent dans ce domaine. Je ne sais plus dans quel pays là. Il y a un exemple où la moyenne des salaires, c'est 60% de moins par rapport au salaire moyen dans les autres. Donc, on exploite les gens. Voilà. On va même, par exemple, à Bali, un exemple à Bali, les travailleurs migrants, ils ont un travail forcé, c'est-à-dire qu'on refuse leur passeport, et donc on les oblige à accepter des conditions, etc. Bon, il y a d'autres exemples. Hein. Un truc aussi assez intriguant, c'est ce qu'ils appellent le volontourisme. J'ai appris un mot. Volontourisme, ça permet de sauver le monde, évidemment. Et en fait, ils prennent l'exemple d'Haïti, après le séisme 2010. Bon, il y a des agences qui ont pris des jeunes très sympathiques.
Organiser des chantiers de reconstruction.
Voilà, qui sont allés là-bas, qui ont travaillé. Bon, en fait, résultat, les gens qui auraient pu trouver du travail et qui étaient compétents n'étaient pas là. Donc, en fait... ça a été des travaux bâclés, l'économie locale a été complètement asphyxiée, enfin bref. Donc il faut toujours trouver derrière ces alternatives éthiques, il avait le mot qu'il met dans l'introduction, la réalité, quoi. Le problème, le système économique, il est toujours là. Bon.
Faut quand même préciser que...
Voilà.
Je donne un petit...
Sur
cette histoire-là de volontourisme, c'est quand même d'un cynisme assez terrifiant, puisqu'effectivement, on imagine que des Occidentaux de bonne volonté se sont dit on va aller aider là-bas à construire des maisons, des centres sociaux, des choses comme ça. Et donc, ils ont payé des voyages pour aller là-bas, donc avion, logement, ainsi de suite. Donc, effectivement, ils ont pris éventuellement le boulot d'autres personnes. Et pendant ce temps-là, les agences qui ont organisé tout ça, elles empochaient de 2 000 à 5 000 euros par séjour, vol plus logement. Hein, donc, résultat, économie locale asphyxiée, travaux bâclés, ce qui est assez terrifiant. Mais ce que je trouve très intéressant et pertinent dans son texte, c'est effectivement la référence au colonialisme. On pourrait se dira quand même, mais non, ça a changé. Mais en fait, c'est le même système d'extraction des richesses, la manière de maintenir le petit peuple de l'empêcher de se révolter a un peu changé, mais finalement on exploite les choses et les ressources, les retombées sont aussi médiocres qu'auparavant.
Donc il dit bon, il y a quand même quelques alternatives. Bon, c'est sûr que par rapport au nombre de touristes, ça peut pas s'offrir à tout le monde. Enfin, il y a des hébergements autogérés, on peut prendre des contacts sur place, on peut prendre avec des hébergements indépendants, des choses comme ça. Mais enfin, c'est bien au niveau individuel, mais c'est vrai qu'au niveau marginal, c'est marginal au niveau de la masse de gens qui sont dans le tourisme, quoi. Donc, dernière phrase, créer des alternatives, soutenir les luttes locales. Le monde est assez vaste pour que nous n'ayons pas besoin de payer pour le visiter.
Voilà. Et peut-être que ce qui est dans l'article qui suit, donc qui est...
Je repasse un petit peu parce que je sais que tu l'avais présenté.
Donc c'est un compagnon de Barcelone, un catalan, Daniel Vacoba, qui a écrit ce texte et donne un peu quelles pourraient être les tentatives d'auto-organisation pour lutter contre ce qu'ils appellent...
Ce qu'il faut quand même dire, c'est que la région de Barcelone... par rapport à ça, par rapport aussi quand il y a eu la crise de l'immobilier, tout ça, bon, les gens ont l'habitude, pas tous, de s'organiser dans des quartiers. Ouais. Et ça, c'était intéressant justement de montrer là où il est quand même possible de faire des résistances plus collectives, quoi.
Et donc voilà, il y a un article pour expliquer un petit peu comment, puisque à Barcelone, on prend cette vague de surtourisme de façon très très violente. C'est un gros impact sur sur la qualité de vie des habitants qui ont du mal à se loger, ou en tout cas s'ils se trouvent à se loger, le prix de tout ça a fortement augmenté. Et donc comment un peu organiser la lutte contre ces effets négatifs, puisque il cite un peu les effets négatifs de tout ça, c'est-à-dire expulsion de population par la prolifération des logements touristiques, précarisation du travail due à la concentration de la main-d'œuvre dans le secteur du tourisme, pollution de l'air et de l'eau due à la prolifération de vols et de bateaux de croisière, conséquences des problèmes de santé et dans certains cas respiratoires et parfois de santé mentale, problèmes de mobilité à pied par la surexploitation du transport public.
Dans ce que tu as cité, là, juste un complément, c'est la consommation d'état et d'eau. Un touriste, bon, il a le droit, mais enfin, il représente de 2,5 à 5 fois plus qu'un habitant. Bon, on voit la différence de classe sociale, quoi, et d'habitude aussi.
Ben oui, il a payé, donc il aime bien prendre une longue douche. Voilà, le touriste aime se doucher abondamment. Donc voilà, il y a tout un tas d'inconvénients, d'effets collatéraux qui vont être subis par les populations, qui sont celles qui payent la gestion des déchets sans en récolter vraiment les vrais bénéfices. Enfin, voilà. De façon conséquente. Les Barcelonais, dans les quartiers, tentent de s'organiser. C'est une lutte qui est plutôt difficile, hein, parce que ce qu'il explique, c'est qu'en général, les municipalités disent oui, on va s'en occuper. Il y a un peu des effets d'annonce, mais sont assez peu, au-delà d'un volontarisme de façade, d'affichage.
Oui, c'est une mesure assez bidon, hein. Voilà. Pas rempli d'eau, hein, mais des mesures bidon.
J'avais envie de raconter une anecdote. Un récit qu'on m'a fait, enfin, si tu veux compléter sur Barcelone, mais là ça se passe à Paris. En fait, on m'a raconté l'histoire de quelqu'un à Paris qui est donc c'est quelqu'un profession libérale, un couple, les deux personnes travaillent, des salaires plutôt convenables, voire très, deux enfants, et puis il est un peu inquiet de la fermeture des classes et des choses comme ça dans le centre de Paris. Donc il va rencontrer une élue, il lui explique son cas. Quand il a fini de détailler son histoire, l'élu lui dit « Mais monsieur, les petits bourgeois comme nous, vous ne nous intéressez pas du tout. » Alors, un peu surpris, il dit « Mais qui est-ce qui vous intéresse ?» Alors, peut-être qu'il pensait qu'une âme un peu de gauche allait dire « Mais nous, on veut des vrais ouvriers, des choses comme ça. » Alors non, ce n'était pas du tout ça. C'est-à-dire que même c'est classe très petite bourgeoise avec deux enfants qui allaient permettre de sauver les classes, ça les intéressait pas du tout. Ce qui les intéressait, c'était les touristes américains qui allaient pouvoir occuper des Airbnb. Et je crois qu'elle l'a dit sans ciller, sans avoir l'impression de dire des choses un peu étranges. Dommage qu'elle n'ait pas pu être enregistrée et qu'on puisse lui demander de rendre un peu des comptes sur cette affaire-là. Mais on peut dire aussi que ce qui se passe à Barcelone depuis quelques années et qui a valu parfois des organisations hostiles au tourisme assez musclées, tout ça est en train de se mettre en place à Paris aussi.
Oui, juste un complément qui est assez intéressant, c'est qu'au-delà de ce qu'ils organisent justement à Barcelone, ils participent maintenant à un réseau sud de l'Europe en touristification, voilà, qui s'appelle le réseau 7, donc avec des organisations du Portugal, en Espagne évidemment, et puis en Italie. Voilà.
Et oui, puisque toutes les centres de villes du sud de l'Europe et de la Méditerranée vivent les mêmes problèmes avec l'arrivée de méga paquebots de croisière qui déversent des dizaines de milliers de personnes d'un coup, dont les...
Et puis sans compter tous les avions, là, qui sont, je ne sais plus à quel endroit, ils veulent augmenter un aéroport.
Barcelone, apparemment.
Ah oui, c'est à Barcelone, étendre, j'avais vu ça. Et ça, bon, puisqu'on parle de CO2, c'est pas terrible, pas terrible.
Donc Venise, même problème, je sais plus où, en Croatie, enfin voilà, toutes ces villes qui sont un peu captées par le surtourisme et les croisières de masse. Alors moi, j'avais noté, on en avait parlé un petit peu, sur les deux premiers textes de ce... comment dire, de ce dossier, pour revenir un peu dessus, puisque dans le tout premier, c'est Franck Plazanet, qui faisait partie du comité de réaction du Monde Libertaire l'année passée, qui l'a écrit. Donc lui, il parlait de la... Et il disait que les mouvements... se demandait si les mouvements anarchistes étaient suffisamment emparés de cette question du tourisme, et il proposait de lutter contre la marchandisation du monde et des imaginaires, puisque finalement le tourisme est aussi une production tout à fait inhérente au capitalisme. Pour aider dans cette réflexion, il a interviewé un auteur qui s'appelle Rodolphe Christin, et qui est l'auteur de plusieurs livres liés au tourisme. Rodolphe Christin est sociologue, et donc il a notamment publié « Manuel de l'antitourisme » ou « Peut-on voyager encore ?» Et il explique un peu comment... il dit que notamment, voilà, on parle du surtourisme, et puis on dit que finalement, ce qu'il faudrait faire, c'est aménager ces effets collatéraux. Ça serait un peu une pratique de management, il faudrait corriger, quoi. Et donc là, je le cite, et il nous dit que c'est donc le tourisme, considéré comme une dimension du développement du capitalisme, qui est en cause, pas seulement ses effets secondaires. Penser le contraire permet de ne pas voir le problème en face et diffuse l'illusion d'un management. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait... Et finalement, ce qu'ils disent, ce qui est assez amusant, c'est que, oui, il y a trop de gens en même temps, au même endroit. Donc en fait, il faut répartir dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire tout au long de l'année. Donc en fait, on va aménager pour que finalement, ce qui se passe en 2-3 mois, ça puisse durer toute l'année. Et donc, en fait, il va y en avoir plus. C'est un peu les pratiques de management des grandes villes qui effectivement, voient une manne pour l'hôtellerie et tout ça. Alors je le cite encore, il dit « Disons que tourisme et travail sont présentés comme les deux faces complémentaires du mode de vie idéal. » Donc effectivement, on travaille et puis on a droit à une récompense, c'est le tourisme. Donc, deux faces complémentaires du mode de vie idéal dans les sociétés de marché, et que cette banalité pose un certain nombre de problèmes. Certes. Il dit encore « Le loisir touristique est devenu un anti-voyage qui transforme le monde en un parc d'attractions. » Donc là, ça rejoint ce que disait Nadar dans son texte, c'est-à-dire que à certains moments, finalement, le tourisme, au départ, dans son intention, vient chercher des lieux un peu différents, un peu exotiques, un peu jamais vus. Mais finalement, il va plutôt contribuer à les transformer et à les anonymiser, à les faire devenir un peu comme partout. Donc c'est l'idée du parc d'attractions. Donc là, je le cite encore. « Ce processus est certes une transformation inscrite dans le paysage et la géographie, mais il affecte aussi l'ambiance et la dimension perceptive et même poétique des territoires. » C'est cela la standardisation, une destination devient un produit. Donc là, on retombe dans le capitalisme. Je crois qu'il dit aussi quelque part, il parle de saccage, en disant que nous nous détruisons nous-mêmes. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait vous dire sur un certain nombre des articles présents dans ce dossier. Vacances, enfin pas dossier vacances, plutôt sous le sable, les pavés de ce monde libertaire d'été qu'on vous convie à aller acheter. Il va être dans vos boîtes aux lettres d'ici très peu de temps. Et à la librairie Publico, évidemment, très vite. Un commentaire, Serge ou...
Non, voilà. Bon, je pars en vacances, mais je vais aux Reclusiennes, donc je peux...
Oui, c'est ça, nous c'est on va se retrouver aux Reclusiennes, mais bon, on va être actifs.
On ne va pas envahir quand même trop.
Non, je crois pas. Non. Enfin, ceux qu'on connaît, ils sont plutôt contents qu'on vienne.
Ah oui, c'est vrai. Hein? Nous, on est contents d'y aller aussi.
Nous, on est contents d'y aller aussi. Voilà, je crois que notre impact environnemental est raisonnable. Non, Monique, qu'est-ce qu'on pense?
Ah oui, je suis bien d'accord.
Alors, encore un titre d'Areski et Fontaine. Vous allez voir, plutôt amusant, ça s'appelle « Le voile à l'école ».
tendre et le saint
et la loi des geôles.
Ciel ratiocinant sur image pieuse,
satanique vent d'Arabie heureuse.
Prophétesse folle et curé mondain, dont la jupe va le faubourg Saint-Germain.
Le voilà l'école, frivole parole, le voilà l'école, folle faribole.
Gracieux signe blanc, tu es dans le vrai,
laïque fervent,
tu es dans le vrai. Lycée pour le son, voile pour le con,
chacun a raison, aucun n'est le bon. Faut-il donc en faire chaque réveillon que nous sert la télévision.
Oiseau, oisillon, cherche ailleurs ton fil. Radote ton barbon, laisse-la tranquille.
Le voilà l'école, frivole parole. Le voilà l'école, folle faribole. Alto ridicule, Rabelais dira, la querelle est nulle.
Nous voilà à l'école, Areski et Brigitte Fontaine. Donc c'est extrait du CD rue Saint-Louis en Lille. Donc à écouter et à réécouter. Nous sommes toujours sur Radio Libertaire 89.4, Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Et nous arrivons bientôt vers la fin du tour du monde libertaire. On vous a présenté le numéro d'été, un très beau numéro, presque un numéro double, 96 pages, qui sera bientôt dans vos boîtes aux lettres. Et puis à la librairie Publico, je vous rappelle que la librairie Publico à Paris, c'est 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement. J'espère qu'on vous a donné envie de le lire, de vous abonner, et puis pourquoi pas d'en offrir un abonnement. Je vous rappelle d'ailleurs à ce sujet qu'il y a une grande opération promotionnelle. Tu sais, Serge, que cette opération est toujours en cours, à savoir que pour tout nouvel abonnement, vous avez droit à un livre choisi parmi les dernières publications des éditions du Monde Libertaire. Et quand on sait que les éditions du Monde Libertaire publient au moins un livre par mois, voilà, sur les 2-3 dernières années, ça vous laisse quand même un petit peu de choix, de trouver chaussures à votre pied, si je puis dire. Je vous rappelle que c'est également valable pour la souscription de tout nouveau bon de soutien à Radio Libertaire. Et pour cela, vous vous rendez sur le site de la radio ou encore à la fin du Monde Libertaire et tout vous sera expliqué. Puisque Radio Libertaire a aussi besoin de soutien, nous sommes d'accord là-dessus. Et savez-vous, chers auditeurs, que vous aurez bientôt une occasion de soutenir vigoureusement Radio Libertaire, n'est-ce pas, Serge ?
Oui, oui, je crois que ça va se passer à Olympe de Gouges. Hein.
Voilà, et pourquoi ? Et pourquoi ? Alors, qu'est-ce qui va se passer ?
Bah, il me semble me souvenir, alors il faut que je fasse un calcul, je crois que ça doit faire 45 ans, 80 plus 45.
80 plus 45, ça fait 125.
Mais c'est... 80 plus 45.
Oui,
ça oui, fait... Oui, mais 1900.
Ah, hein, oui, oui,
1900.
Oui.
Non, mais 1900, ça va de soi.
Tu comptes étrangement.
D'accord.
Et donc, effectivement, Radio Libertaire va avoir 45 ans. 45 ans, le 1er septembre 1981, c'était la première émission de Radio Libertaire qui avait commencé à émettre sur le 89.5.
Oui, oui.
Ce qui est dire que Radio Libertaire a peu dévié, quand même, parce qu'elle n'a accepté que de dévier du 89.5 au 89.4. On sait que ces premières années ont été un peu difficiles, contestées. Pas accepté tout de suite, mais voilà, les compagnons qui étaient à la manœuvre à l'époque ont su faire preuve de fermeté, de résistance face à des menées hostiles.
Oui, face à des meutes policières aussi, qui ont tout bousillé, voilà. Le premier studio.
Voilà, les chaussures à clous qui ont cassé des vinyles, quand même. C'est pas très méchant, les vinyles, mais bon, voilà. Enfin voilà, ce sera l'occasion de nous soutenir. On va vous en parler rapidement. On va profiter de l'été pour commencer à mettre tout ça au point. Et en tout cas, ce qu'on peut vous dire d'avance, c'est que ce sera les 7 et 8 novembre à la salle Olympe de Gouges à Paris, dans le 11e arrondissement. Le métro le plus proche, c'est Voltaire ou
Père Lachaise ou Philippe Auguste.
Voilà, vous voyez, trois métros. Hein, vous faites un petit trait entre les trois lignes de métro et vous tombez presque pile poil. Voilà, donc un grand merci à l'équipe du comité de réaction du Monde Libertaire qui travaille d'arrache-pied à la réalisation de votre Moncels favori. Pour la rédaction, la collecte des articles et des illustrations, la mise en page, toujours magnifique, l'envoi chez l'éditeur, ne l'oublions pas. Donc un travail militant, autogéré et comme toujours sans Dieu, sans maître, sans publicité et sans IA. Maintenant, il faut le rappeler parce que c'est important. On vous laisse en compagnie de Brigitte Fontaine et de son compagnon Areski, que nous saluons aujourd'hui. Restez à l'écoute de Radio Libertaire, la soirée n'est pas terminée, puisqu'à 22h30, vous retrouverez Davout et ses nuits noires. Et même après pif, vous retrouvez un autre morceau de Brigitte Fontaine et d'Areski, le mythique Comme à la radio, qui a été enregistré en 1969 avec le Art Ensemble de Chicago. Et oui, sur Radio Libertaire, on peut faire tout ça. Allez, bonne soirée, à la semaine prochaine dans Trou Noir, on vous parlera des festivals de l'été, justement.
J'ai demandé mon chemin, flic. Il m'a dit, je fais pas de politique. J'ai demandé du feu à une rombière. Elle m'a dit qu'elle était pas ma mère. J'ai demandé leur à une commerçante. Elle m'a dit, je suis pas l'horloge parlante. J'ai demandé conseil aux women's lib. Elles m'ont dit qu'elles étaient pas tout bib. En tout cas, moi je m'aime bien. Et aucun de ces bons à rien, aucun de ces fils de Satan n'est capable d'en dire autant. Ri-de-dum, di-de-dun-dun-dun, di-dun-dun, di-de-dun-dun-dun. J'ai donné du sucre à un clochard. Il m'a dit qu'il était pas clébard. J'ai donné un bouquet à ma belle. Elle m'a dit, je suis pas ta poubelle. J'étais à la fête de l'UMA pour oublier un peu le combat. Tu es mon ennemi objectif, m'a sévèrement dit le chien pif. En tout cas, moi je m'aime bien. Et aucun de ces bons à rien, aucun de ces fils de Satan n'est capable d'en dire autant. Vidéton, 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 vidéton. J'ai écouté les oiseaux chanter. On m'a dit, mon vieux s'est dépassé. J'ai regardé le soleil se lever. On m'a dit, montrez-moi vos papiers. J'ai chanté la joie et la beauté. On m'a dit, faudrait vous faire soigner. J'ai donné la moitié de mon manteau. On m'a envoyé au petit château. En tout cas, moi je m'aime bien. Et aucun de ces bons à rien, aucun de ces fils de Satan n'est capable d'en dire autant. Ri-de-dun, di-dun-dun, 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 di-dun-dun-dun, di-dun-dun, di-dun-dun-dun, di-dun-dun, di-dun-dun-dun.
Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien. ne dérangera pas. Ça n'empêchera pas de jouer aux cartes. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. Tout juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit. N'ayez pas peur, ce sera tout à fait comme à la radio. Des milliers de chats se feront écraser sur les routes. À cette minute, un médecin alcoolique jurera au-dessus du corps d'une jeune fille et il dira : elle ne va pas me claquer entre les doigts, la garce. À cette minute, cinq vieilles dans un jardin public entameront la question de savoir s'il est moins 20 ou moins 5. À cette minute, des milliers et des milliers de gens penseront que la vie est horrible et ils pleureront. À cette minute, deux policiers entreront dans une ambulance et ils jetteront dans la rivière un jeune homme blessé à la tête. À cette minute, une vieille dame ivre-morte gémira seule au dernier étage sous son lit et ne pourra plus bouger. À cette minute, un Espagnol sera bien content d'avoir trouvé du travail.